C'est l'heure du journal, Margot Delpierre. Bonjour Margot.
Bonjour Hervé, bonjour à tous. Pedro Sanchez, le Premier ministre socialiste espagnol, a remporté hier les législatives, mais il est affaibli. Le parti d'extrême droite Vox devient la troisième force politique du pays. Nous ferons le point en direct à Barcelone.
Et c'est flou aussi en Bolivie. Le président a démissionné hier soir. Que va-t-il se passer maintenant ? En attendant, les opposants à Evo Morales ont laissé éclater leur joie, vous l'entendrez.
En ce 11 novembre, où l'on commémore l'armistice de 1918, comment a évolué notre rapport à la guerre ? On a posé la question à un spécialiste de l'histoire militaire. Et la question du jour ?
Comment est-on passé de la marche des beurs en 1983 à la marche contre l'islamophobie hier ? Ce sera en compagnie du prêtre Christian Delorme.
Me gustaría hacer... Una llamada a todos los partidos políticos.
J'aimerais lancer un appel à tous les partis politiques, qu'ils agissent avec générosité et responsabilité pour débloquer la situation. Je dois vous dire... Laissez-moi finir. Je dois vous dire que je m'y engage. Cette fois... Quoi qu'il arrive, nous aurons un gouvernement progressiste qui sera dirigé par le Parti Socialiste. Et nous allons débloquer la situation politique dans ce pays.
Le Premier ministre sortant Pedro Sanchez, optimiste hier soir devant ses militants, après l'annonce de sa victoire aux élections législatives espagnoles, les quatrièmes en quatre ans. Bonjour Isabelle Labéry.
Bonjour.
En direct à Barcelone, il est optimiste. Pourtant, le socialiste n'a pas amélioré ses chances de gouverner.
Non, parce qu'il doit cette fois encore se chercher des alliés pour atteindre la majorité absolue. Et on a beau faire fonctionner la calculette dans tous les sens, ça ne passe pas. À ce stade, ni le bloc des partis de gauche, ni celui de la droite n'atteignent les 176 sièges. Le Parlement est bloqué, comme il l'est systématiquement depuis la fin du bipartisme en 2015. Alors, dès hier soir, pourtant, la gauche radicale de Podemos a proposé d'ouvrir des discussions sur un gouvernement de coalition. Ces six derniers mois, les deux formations n'ont jamais réussi à trouver un terrain d'entente, mais cette fois-ci, il faut faire barrage à l'extrême droite. C'est une nécessité historique, dit le leader de Podemos, Pablo Iglesias. Même si les deux frères ennemis réussissent à faire taire leurs divergences, eh bien ça ne suffira pas. Il faudra d'autres soutiens. Or, ce sera très long, très difficile, parce qu'avec 17 partis différents, ce Parlement est le plus fragmenté de l'histoire de la démocratie espagnole.
Et Vox devient la troisième force politique du pays.
Oui, une percée fulgurante pour un parti qui n'a que 5 ans d'existence. Vox fait plus que doubler son score. Il gagne 28 députés par rapport à la précédente législature. Dans une intervention au ton très dur hier soir, Santiago Abascal a déroulé ses thèmes de prédilection, promettant des frontières plus étanches contre l'immigration illégale, une meilleure défense de la famille et de la vie, ainsi que la mise en œuvre implacable, je cite, de la loi contre les putschistes catalans qui foulent au pied l'unité du pays. Le tout sans oublier de dénoncer une campagne médiatique d'insultes organisée contre son parti. Nous agirons au Parlement comme une force d'opposition, dit-il, pour porter nos valeurs et ne nous vous décevrons pas. Le patron de Vox, qui dès hier soir avait eu droit à un message de félicitations de Marine Le Pen, la présidente du Rassemblement National.
Isabelle Labéry en direct à Barcelone avec Laurent Macchietti pour France Culture. Toujours plus d'instabilité politique en Bolivie. Après 3 intenses semaines de manifestations et d'affrontements, le président bolivien Evo Morales a annoncé sa démission hier soir. Celui qui était au pouvoir depuis 2006 venait de perdre le soutien de l'armée et de la police. Ses opposants refusaient de reconnaître sa victoire à la présidentielle, dénonçant une fraude. La vague de contestation avait commencé dès le lendemain du scrutin. Hier, les opposants sont à nouveau descendus dans la rue, cette fois pour fêter leur victoire. C'est un reportage d'Alice Campagnol dans les rues de La Paz.
Des scènes de liesse, des chants, des pleurs de joie, c'est ce que l'on pouvait voir partout dans les rues de La Paz hier soir. Les opposants fêtaient le départ de celui qui les a gouvernés pendant plus de 13 ans. À 17h exactement, après des violences causées par des citoyens de l'opposition et des défections au sein de son gouvernement, Evo Morales a annoncé à la télévision d'État sa décision de quitter le pouvoir.
À mes frères et sœurs boliviens et au monde entier, j'annonce que je quitte la présidence de la Bolivie. Il faut que le peuple bolivien sache, ainsi que la communauté internationale, que des groupes oligarchiques conspirent contre la démocratie.
Immédiatement, des milliers de citoyens sont sortis de chez eux pour crier victoire. Beaucoup considèrent être désormais libérés.
Le gouvernement est resté au pouvoir plus longtemps qu'il n'aurait dû. Mais grâce à l'unité de tous les Boliviens, aujourd'hui nous pouvons crier « La Bolivie est libre ».
Du côté des partisans d'Evo Morales, ils ont laissé éclater leur colère, notamment dans la ville de El Alto, bastion du parti de l'ancien gouvernement. Ils s'en sont pris à des bâtiments publics, entre autres. Que va-t-il se passer maintenant en Bolivie ? La présidente du Sénat, qui aurait dû assumer le pouvoir après les démissions en chaîne, a également abandonné son poste. Pour le moment, personne ne dirige le pays.
Et Evo Morales a annoncé qu'un mandat d'arrêt illégal avait été émis contre lui. Le Mexique lui offre l'asile. Des fonctionnaires et des parlementaires boliviens ont déjà rejoint l'ambassade mexicaine de La Paz. Cuba et le Venezuela estiment que sa chute est un coup d'État. La Colombie demande, elle, qu'une réunion urgente du Conseil permanent de l'Organisation des États américains soit organisée. Un policier qui tire sur un manifestant masqué, cela s'est passé ce matin à Hong Kong et les images ont été diffusées en direct sur Facebook. Le manifestant serait en ce moment dans un état critique. Des tirs à balles réelles ont eu lieu dans le même quartier. Les tensions sont encore plus vives dans cette ancienne colonie britannique depuis la mort vendredi dernier d'un étudiant tombé quelques jours plus tôt d'un parking à étages pendant des affrontements. Une grève générale devrait avoir lieu aujourd'hui. C'est leur façon de reconnaître la souffrance subie par les victimes d'agressions sexuelles commises par des prêtres. Les évêques de France ont voté samedi à Lourdes en faveur d'une somme forfaitaire. Le montant sera discuté pendant leur prochaine réunion en avril. Et si le dispositif est inédit en France, il existe déjà en Belgique pour toutes les victimes dont les faits sont prescrits et qui ne relèvent plus de la justice. Il a été mis en place après un scandale en 2010, Angélique Bois.
Eva a 84 ans, c'est la plus ancienne victime d'abus connue dans l'histoire de l'Église belge. À l'âge de 7 ans, après la mort de sa mère, elle est placée dans un orphelinat catholique. Adolescente, elle est abusée par un prêtre qu'elle dénonce alors à la police. Il sera écarté par le clergé, mais jamais inquiété par la justice, dénonce-t-elle encore près de 70 ans après les faits.
Pour moi, c'est des crimes. Moi, j'ai été élevée dans la religion. Nous, on baignait là-dedans. Pour nous, c'était quelque chose de sacré. Ce prêtre, ça m'a vraiment, au lieu de m'agresser, il aurait dû me protéger. J'avais 14 ans. Hein. Et lui, il a toute sa vie vécu dans un petit village. Enfin bon, il le savait, hein, à l'évêché.
En 2010, l'ancien évêque de Bruges est accusé d'abus sexuels sur un enfant. La parole se libère partout dans le pays. Eva témoigne auprès d'une des cellules d'écoute. Elle touchera une compensation de 25 000 euros. Tommy Scholtes est le porte-parole des évêques de Belgique.
Alors, beaucoup de victimes n'étaient pas demandeurs, en fait, de réparation financière. La chose la plus importante était d'être reçue et d'être reconnue dans leur statut de victime. Mais certains ont eu des frais considérables de médecins, de psychiatres, d'avocats, et cela a permis parfois de contribuer à ces frais-là.
Depuis 2010, on a recensé plus de 1000 victimes en Belgique. 850 d'entre elles ont été indemnisées via deux dispositifs, les cellules d'écoute diocésaines et la commission d'arbitrage indépendante de l'Église, dans laquelle siègent des magistrats à la retraite. Chacune a touché entre 5 et 25 000 euros, somme payée par le clergé, mais aussi les agresseurs. Quand ils sont encore en vie, on les invite fermement à participer, explique le porte-parole des évêques.
La correspondance d'Angélique Bouin à Bruxelles.
France Culture, il est 7h08. La suite de votre journal, Margot Delpierre et Emmanuel Macron qui va commémorer ce matin le 101e anniversaire de l'armistice.
Une journée pour se souvenir aussi de ceux qui sont morts pour la France. 1,4 million de soldats français ont été tués pendant la Première Guerre mondiale en 14-18. Aujourd'hui, le rapport à la guerre et à la mort a beaucoup changé. La perte d'un seul homme est vécue comme un lourd échec. Explication du professeur d'histoire militaire à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Hervé Drévillon.
Aujourd'hui, les sociétés européennes sont impliquées dans des guerres qui sont d'une nature totalement différente de ce qu'on a vu pendant la Première Guerre mondiale. La perspective d'une guerre massive engageant ou mettant en péril la totalité de la nation, la totalité de la population, etc., ces perspectives-là n'existent plus. Et donc, les guerres menées par les puissances européennes comme la France, bon, ce sont des guerres d'opération et d'opération que l'on dit extérieures. Et donc, la société n'est plus du tout impliquée de la même façon dans la guerre qu'elle l'était au moment de la Première Guerre mondiale. Et donc, le rapport de ces sociétés à la mort guerrière, à la mort militaire, a aussi beaucoup changé. Et puis, les types de guerres qui sont menées sont des guerres quand même qui provoquent des faibles pertes. Ce sont des guerres limitées. Et donc, tout simplement, la société française, elle a perdu l'habitude. Elle a perdu cette relation à la guerre de masse et donc du coup la mort militaire, elle est devenue là aussi numériquement, statistiquement plus faible.
Propos recueillis par Maxime Tellier, un entretien à retrouver en longueur sur notre site internet franceculture.fr. 13 500 personnes ont manifesté hier dans les rues de Paris à l'occasion de la marche contre l'islamophobie. Chiffre du cabinet Occurrence, la préfecture de police de Paris a dénombré 10 500 participants. Une marche controversée qui a divisé la gauche. Pour la France insoumise, son chef de file Jean-Luc Mélenchon était notamment présent, mais pas le député François Ruffin. Le Parti socialiste s'est tenu à l'écart. Le parti Les Républicains sera lui occupé cette semaine par la succession de la mairie de Marseille. Une réunion de conciliation est prévue mercredi à Paris en présence du président du parti Christian Jacob pour tenter de départager les deux candidats Martine Vassal à la tête du département et de la métropole et Bruno Gilles, sénateur et maire d'arrondissement. Un duel entre des figures peu connues des Marseillais qui ne parvient plus à masquer la lutte en coulisses entre l'actuel maire Jean-Claude Gaudin et Renaud Muselier, son ancien premier adjoint, aujourd'hui président de la région, Olivier Martoc.
À Marseille, jamais rien n'est simple, surtout au moment des fins de règne. La gauche a explosé à la mort de Gaston Defferre, la droite s'écharpe alors que Jean-Claude Gaudin, à 80 ans, ne se représente pas, mais entend bien imposer une héritière, Martine Vassal. Il la connaît depuis qu'elle est née dans son quartier de Mazargues, a fait toute sa carrière jusqu'à la placer il y a un an à la tête de la métropole. Martine Vassal s'est assuré le soutien de la majorité des élus sortants. Le problème, c'est que Renaud Muselier, le seul politique à Marseille à avoir la même notoriété que le maire, dresse un bilan très dur de la dernière mandature Gaudin et donc de l'équipe qui l'entoure. L'homme qu'il pousse, Bruno Gilles, a emporté la fédération haut la main et surtout s'est déclaré le premier, d'où pour le président de la région sa légitimité à être candidat au nom des Républicains. Pour la première fois en 3 ans, Gaudin et Muselier ont eu un tête-à-tête pour tenter de trouver un accord. C'était la semaine dernière. Fiasco total, d'où le recours aux instances nationales du parti. L'affrontement entre les deux hommes s'annonce virulent.
Olivier Martoc. Beaucoup de grisailles matinales aujourd'hui. Attention au brouillard sur le Grand Est et en vallée de la Garonne. Météo France prévoit aussi de la pluie. Il fait ce matin jusqu'à 5 degrés sur la plupart de l'Hexagone. Les températures maximales seront de 8 degrés à Lille, 9 à Paris, 10 à Brest et Lyon, 11 à Bordeaux, 15 degrés à Perpignan et 17 à Ajaccio-Hervé.
Merci Margot Delpierre. Dans un instant, dans la question du jour, on revient sur la marche d'hier contre l'islamophobie.